Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour, bonjour et bienvenue sur RLP Business. Aujourd'hui, un direct de Coulommiers-Chamiers, Périgueux, toujours sur RLP Business, RLP 102.3 FM, RLP Business, l'émission de l'économie, de l'activité, de l'entrepreneuriat en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, émission spéciale. Patrice n'est pas présent, il est malade, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, soit dit en passant. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Christophe Cossé. Alors, Christophe Cossé, invité prestigieux, les clés de la vie, la carte au trésor, Fort Boyard, le passage à l'indépendance, le documentaire Rolled Up et aujourd'hui la série documentaire Wake Up. Christophe, bonjour, tu vas bien ?
Bonjour. Oui, merci Stéphane, merci de me recevoir, c'est très sympa.
Mais je t'en prie, c'est intéressant parce que tu vas avoir plein de choses à nous raconter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je propose d'écouter la bande-annonce de Wake Up tout de suite, la bande-annonce numéro 2, elle fait 2 minutes 03, ne bougez pas, c'est tout de suite.
Depuis 70 ans, sont apparus toute une série de phénomènes inexpliqués faisant intervenir la conscience, montrant que la conscience, c'est quelque chose qui, attention, c'est peut-être bien différent du cerveau.
La magie humaine, c'est pour être infiniment présent au monde, il faut être en dehors du monde. Le temps et l'espace sont une seule et même réalité. Il y a bien un réel qui, à la fois matière, mais à la fois conscience.
La conscience n'est pas du tout ce qu'on pense, c'est-à-dire quelque chose qui est créé par le cerveau, mais quelque chose qui est relatif à la nature de l'espace lui-même.
There is only one consciousness that we belong to. It's an embracing consciousness, and we are a part of it.
C'est ça qui est absolument merveilleux de se réapproprier cette appartenance à l'univers, parce que tout est relié.
A appris Aristote, il y avait quatre éléments, mais il y avait le cinquième, qui était l'éther. Et cet élément, l'éther, c'était toute la matière extraterrestre, qui est matière divine.
On peut dire que le mot amour, quand on parle d'un amour évidemment universel, hein, c'est la substance de l'univers.
Et physiquement, en termes de magnétisme, c'est vrai, le champ magnétique du cœur est beaucoup plus intense que le champ magnétique de la tête ou des intestins.
5000 fois supérieur à celui du cerveau.
C'est ce qui est dit dans toute la tradition médiévale, que la force vient du cœur, pas de la tête.
Oui, donc une bande-son effectivement très prenante, Wake Up. On va en parler en fin d'émission. Et par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment dans ton parcours, tu as pu devenir ceci aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir ceci aujourd'hui, tu vois, qui est extrêmement différent de ce que tu as été au départ, hein, disons-le quand même. Déjà, pourrais-tu expliquer aux néophytes que nous sommes, qu'est-ce que c'est que réalisateur, qu'est-ce que c'est que producteur, quelle différence il y a entre les deux ?
Alors, il est vrai que il est nécessaire de pouvoir clarifier un peu ces deux définitions, tant ça peut être aussi galvaudé. Alors, le réalisateur est généralement celui qui va réaliser, mettre en image, raconter une histoire à partir d'un cahier des charges qui est défini par le producteur. D'accord ? Donc, le réalisateur, c'est beaucoup plus la partie artistique d'un traitement, d'un sujet, quel qu'il soit, que ce soit un sujet documentaire comme un sujet de fiction. On remet au réalisateur un écrit et ensuite charge au réalisateur de mettre en image cet écrit. Le producteur, quant à lui, alors il y a d'un côté le producteur délégué, de l'autre le producteur exécutif. Le producteur exécutif est celui qui met en œuvre la production nécessaire aux réalisateurs pour qu'ils puissent, dans les moyens qu'ils souhaitent effectuer, réaliser sa production. Et ensuite, il y a le producteur délégué qui, lui, se charge de tout ce qui est gestion des droits et gestion de l'enveloppe budgétaire qui, ensuite, est délivrée au producteur exécutif qui, lui, doit se charger de rester dans l'enveloppe budgétaire qui lui a été donnée. Donc, il y a un exécutif côté production, il y a un délégué côté production qui est plus un travail à la fois de commercial et aussi d'administrateur et de gestionnaire administratif. Le producteur exécutif se charge d'exécuter, de mettre à disposition du réalisateur les moyens dont il a besoin pour effectuer son film.
Donc le producteur, en fait, c'est peut-être celui qui amène l'argent, qui est donneur d'ordre, quelque part.
Oui, et il peut aussi apporter l'idée en demandant au réalisateur de concrétiser selon un cahier des charges plus ou moins défini.
Et le réalisateur, lui, effectivement, va souvent être employé par le producteur ou par la structure de production et sera en charge de la mise en scène, de la réalisation, en fait. Voilà, réalisateur, il réalise quelque part. Hein. D'accord.
C'est ça.
Ok.
Donc, ça concerne aussi bien l'image que le son, que la musique, tout ce qui est artistique, en définitive.
D'accord. Donc, dans ta carrière, toi, tu as commencé sur le... Tu es passé par France 3, tu as commencé par le service public ou par le privé, toi ?
Alors, plus précisément, j'ai commencé ma carrière en faisant des films sur le snowboard, parce que j'étais passionné par cette discipline. D'ailleurs, c'est avec deux autres acolytes, c'est moi qui ai mis en place l'Association française de snow et qui avait fait toutes les démarches à l'époque, c'était en 87, pour que ce sport soit non seulement reconnu, mais aussi praticable et pratiqué. Et par suite, j'ai travaillé surtout dans des grosses émissions de divertissement comme Fort Boyard, pour ne citer que cette émission-là qui est encore aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français. Donc j'ai commencé par ça et j'ai fait mes classes, si je puis dire, en tant qu'assistant, que ce soit assistant de production comme assistant de réalisation. Et à côté de ça, je faisais des documentaires que je produisais et que je réalisais moi-même. Alors ce que je continue à faire aujourd'hui.
On va le dire, tu étais très mainstream, tu étais très intégré à la télévision d'État française, en fait. Tu étais très... tu étais sur France 2, tu étais sur plusieurs chaînes de télévision, tu participais à la production et à la réalisation d'émissions à forte audience, donc tu faisais partie de ce qu'on appelle un peu le système médiatique.
Oui, tout à fait.
De là, après, tu es passé à l'indépendance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à faire cette transition ?
Alors, je corrige quelque peu tes propos. J'ai commencé indépendant, c'est-à-dire que les chaînes... ont rarement des structures internes pour pouvoir produire des grosses émissions de divertissement comme la carte au trésor ou...
Oui, elles passent par des sous-traitants.
Et d'accord. Voilà, ils font appel à des structures privées. Et moi, j'ai très rapidement monté ma structure privée pour ensuite proposer mes services en production, que ce soit en production déléguée comme en production exécutive et en réalisation également. D'accord. Et lorsque j'ai essuyé mes guêtres dans ce mainstream, comme tu dis justement, j'étais et producteur et réalisateur. Mais je travaillais pour mon compte et ensuite je vendais ma prestation à un producteur extérieur qui, lui, était le producteur délégué, c'est-à-dire lui en charge des relations et des rapports avec là ou les chaînes.
D'accord. Alors effectivement, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est de voir... Alors, à un moment donné, tu as changé d'environnement de manière évidente. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Alors, la première chose qui s'est passée, c'est à l'aube des années 2000-2010, après quelques années de production de grosses émissions comme La Carte au Trésor, de réalisation aussi, tu citais tout à l'heure aussi Les Clés de la Ville pour Arte, qui a été le seul et unique jeu que Arte ait jamais diffusé. Et je faisais aussi de la production de documentaires et de la production de séries, documentaires, j'entends. Et j'ai voulu... me rapprocher beaucoup plus de mes amours premières, qui était le documentaire dit socioculturel. Mmh. Et compte tenu de la politisation de plus en plus prégnante et de la concentration économique aussi des agents actifs, si je puis dire, de la production, à savoir les grosses boîtes de production qui qui fournissent aux chaînes des programmes, je me suis rendu compte d'une extrême concentration au sein de 3 ou 4 unités, guère plus des groupes en fait audiovisuels, qui fournissent l'intégralité des chaînes françaises, que ce soit des chaînes privées comme des chaînes publiques. Et moi, je me sentais pas à l'aise avec ça, et donc j'ai rompu à l'aube des années 2010 tous mes contrats, j'ai vendu mes droits de la carte Trésor. En bref, j'ai lâché tout ça, à la fois pour embrasser un métier que j'adore, qui est celui de thérapeute, fort d'une formation en psychologie clinique et en hypnose ericksonienne, et je me suis mis à l'écriture de documentaires, qui est vraiment ma passion première. Et j'ai mené les deux conjointement pendant une bonne dizaine d'années jusqu'à ce qu'intervienne le phénomène Covid. Et là, constatant ce qui était en train de se dérouler sous mes yeux, j'ai décidé de reprendre mes activités avec beaucoup plus d'engagement et d'énergie pour, en tout cas, produire ce que tu as cité tout à l'heure, le documentaire Hold Up.
Alors, avant d'aller sur Hold Up, on va recreuser un petit peu ce point-là. Tu es en train de nous dire qu'en 2010, il y avait 4 structures, en fait, qui géraient la majorité de la production audiovisuelle française, c'est ça ?
Oui, il y avait 4 gros groupes. Aujourd'hui, oui. Ils sont toujours prégnants, mais il y en a surtout un qui, vraiment, en tout cas, en matière de divertissement, ce que l'on appelle les programmes de flux, il y en a un qui phagocyte absolument tout le marché, c'est la société Banijé.
D'accord, parce que les gens n'ont pas conscience de ça, parce qu'on a une connexion, on a une box. Aujourd'hui, tout le monde se connecte à la télévision, on va à la box. Il y a beaucoup, beaucoup de chaînes de télévision, mais on ne se rend pas forcément compte qu'il y a une espèce de centralisation de la production audiovisuelle.
Tout à fait, une concentration de la production et avec finalement très peu de concurrence. Et ce qui est d'assez notable, d'assez remarquable, en fait, c'est que 4 gros groupes fournissent plus de 90% des programmes de la télévision actuelle.
Alors, est-ce qu'ils appartiennent à la même personne? Est-ce qu'ils appartiennent aux mêmes intérêts? Ou est-ce que ce sont vraiment des groupes qui ont des avis, qui peuvent exprimer des avis différents, des positions différentes? Ou est-ce qu'il y a, je veux dire, unicité du dialogue et du narratif?
J'aurais tendance à dire qu'il y a un peu une unicité du narratif. Toutefois, ça n'engage que moi, bien évidemment.
Non, mais c'est ton avis que je demande, c'est le tien que tu donnes. De toute façon, c'est bien sûr.
Oui, bien évidemment. Mais ce qu'il y a, c'est que cette concentration est assez inconnue du grand public. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a, dès que j'ai pu le constater, c'est ce qui m'a fait réagir.
Donc, effectivement,
c'est-à-dire que la concurrence pour être un producteur indépendant aujourd'hui et faire ce que l'on appelle du flux, c'est extrêmement compliqué. D'abord, quand il n'y a pas de gros groupes financiers derrière. Tant pour des raisons de confiance d'un diffuseur, parce que si t'as pas une grosse surface financière, si jamais t'as un accident industriel, si tu n'as pas derrière une grosse assise financière, c'est un petit peu délicat pour le diffuseur, parce que il a peu de marge de manœuvre, tandis que lorsqu'il s'adresse à un gros groupe, de toute façon derrière, il y a et les moyens financiers et les moyens humains pour garantir la fourniture des programmes.
D'accord. Juste comme ça, en parenthèse, en 10 secondes, ces espèces de 4 groupes, est-ce qu'on sait grosso modo à qui ils appartiennent, quelles tendances ils ont, ou est-ce que c'est non identifiable parce que c'est...
Ils sont tout à fait identifiables et ce sont exactement les mêmes groupes qui émergent lorsque tu étudies à qui appartient la presse aujourd'hui.
D'accord, donc ce sont toujours, oui, quelques millionnaires en fait. Et donc toi, très clairement, tu as été confronté à ça et tu as senti que tu avais une perte de liberté. Tu ne pouvais pas exprimer forcément les thèmes que tu voulais, donc tu es parti le faire sans eux. C'est ça en fait, si j'ai bien compris.
Alors, tu comprends bien en fait, sortant d'une grande liberté éditoriale, en tout cas que j'ai eu avec la carte au trésor, liberté éditoriale qui m'a d'ailleurs souvent été reprochée par les politiques, notamment aussi par ceux qui étaient au sein même de France Télévisions. Mmh. Et cette liberté de ton et cette liberté de traitement, c'était vu totalement restreinte dès 2007, dès 2007-2008. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé véritablement à me désengager de ces grosses productions pour ensuite essayer de renouer avec des petites productions où là, il y avait beaucoup plus de liberté de ton, de liberté d'expression. Et je pense, bon, c'est évidemment au dépens de la puissance de la diffusion du programme, parce qu'évidemment, quand tu te retrouves à diffuser un film sur Internet ou sur une chaîne périphérique, ben, il y a bien moins d'impact en audience que si tu l'avais fait sur une chaîne mainstream.
Ça dépend. C'est parfois en train de s'inverser et nous voyons des productions indépendantes et des réseaux de diffusion indépendants qui affichent des chiffres supérieurs à certains processus conventionnels. On commence à voir ça.
Assurément. Assurément. Mais nous étions là, on était en 2010.
Ah donc oui, effectivement, tout à fait, c'était à 14 ans. Oui.
10 ans plus tard, et notamment avec Hold Up, ça a beaucoup changé.
C'est vrai, c'est vrai.
En l'occurrence, en 2010, c'était le constat que j'avais fait. Et voilà, j'avais besoin aussi, c'est pour ça que j'ai embrassé pendant une dizaine d'années, une activité que j'ai toujours d'ailleurs, le fait de prendre... prendre des patients pour les accompagner.
Ouais, parce que tu es thérapeute, oui, tu as dit, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, pour les gens qui nous écoutent, hein, qui sont intéressés pour se lancer dans la production indépendante, la réalisation indépendante, toi qui as maintenant un parcours de plusieurs dizaines d'années et qui a vraiment touché aux deux, quels sont les pièges, les difficultés, comment se construit sa communauté? Enfin, je veux dire, l'indépendance, c'est facile?
Non, tu payes évidemment, tu payes ton indépendance. Parce que ce que j'associe assez rapidement à l'indépendance, c'est l'autonomie. Lorsque tu es indépendant, tu es beaucoup plus fragile. Certes, il y a la liberté d'expression, mais tu es sujet à la fois à des difficultés financières, puisqu'il n'y a pas du tout les mêmes flux financiers au sein des indépendants. Il n'y a pas du tout le même type de distribution ou de diffusion. Aujourd'hui, si l'on se concentre sur le web et qu'il est beaucoup plus facile de faire diffuser un document gratuit sur le web qu'un document payant, parce qu'il y a aussi le phénomène de piraterie qui, hélas, sévit et qui est un véritable problème pour tous les auteurs. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a aussi dans la musique où c'est malheureusement beaucoup le cas. Maintenant, les gens ont l'habitude de consommer gratuitement. Ils ont l'habitude de pouvoir accéder à une information n'importe laquelle de façon extrêmement rapide et selon des codes que tout un chacun a aujourd'hui. Pour l'économie du système, c'est beaucoup plus difficile parce que soit ça se base sur une VOD, donc une vidéo on demand, avec la location ou l'achat du film que tu as réalisé ou produit, ou c'est faire appel à la souscription du citoyen ou de l'internaute. Viennent ensuite d'autres considérations, à savoir la visibilité de ton site ou de ton film, à savoir la communication que tu peux faire à travers les différents réseaux sociaux qui peuvent eux aussi connaître censure ou des choix d'algorithmes qui ne te sont pas forcément favorables. Donc c'est un parcours du combattant. Ouais.
D'accord.
Pour vraiment croire à ton projet.
Non, mais la liberté, aujourd'hui, la liberté, l'indépendance, effectivement, a un prix, a un coût. Nous, nous sommes une radio libre, nous le savons aussi que, c'est comme ça. Mais bon, effectivement, comme tu l'as dit, il s'est passé des choses, les choses évoluent, le contrôle de l'information, la diffusion du narratif est de moins en moins effectif. On ne sait pas ce qui se passera plus tard, mais effectivement, avec Hold Up, il s'est passé quelque chose. Donc, tu as, toi aussi, je crois, noté que durant cette époque-là, l'information, enfin, avec Hold Up, tu as touché. Donc, on va rappeler que tu es le producteur de Hold Up, hein, que le réalisateur a été Pierre Barnérias, qui ensuite a fait Hold On Exact, mais tu es la personne qui a instillé, qui a lancé, qui a fait le projet Hold Up. Et là, par contre, la visibilité, tu en as eu.
Oui, il y a eu de la visibilité et on a, si je puis dire, parce qu'à toute chose, malheur est bon, on a aussi bénéficié d'une forte promotion par à la fois le gouvernement, mais aussi les supports mainstream qui se sont empressés d'instrumentaliser le discours tout bêtement instrumentaliser Hold Up ça nous a mené c'était il y a presque un peu moins de 4 ans, un peu plus de 3 ans. Ça avait été, en tout cas pour Pierre et moi, un véritable choc parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel engouement, un tel succès pour ce film. Et je dois convenir que c'est quelque chose qui nous a totalement dépassé parce qu'il semblerait qu'on a eu jusqu'à 15 millions de vues de façon officieuse en France. Rien qu'en France.
Oui, oui. Et entre ceux qui l'ont vu complètement et ceux qui en ont un peu entendu parler, ceux qui ont vu des extraits, peut-être que tu peux quasiment doubler ou tripler.
Oui, mais bon.
Oui, je sais, je sais bien. Non, mais au niveau de l'audience. Est-ce que ça vous a été reproché? Est-ce que toi, le fait d'avoir fait quelque chose, je dirais pas transgressif, mais de différent, t'a apporté des difficultés? Est-ce que ça t'a été reproché dans ta vie tous les jours, dans ta situation professionnelle?
Assurément. Mmh. Bien sûr. Non seulement... on a été assez rapidement catégorisé parce que c'est un peu le principe du complot sophisme, c'est-à-dire tout de suite de qualifier les auteurs que nous étions, Pierre et moi, ainsi que tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à Hold Up, que ce soit des intervenants ou même de simples techniciens. Nous avons eu une campagne de calomnie assez prononcée. J'avais des contrats en cours avec deux chaînes de télévision, dont une publique, et ces contrats ont tout de suite été suspendus. On a demandé aussi à ce que mon nom soit retiré du générique de la carte trésor, comme si j'étais un pestiféré et c'est allé très loin, parce que ça a eu également des conséquences dans mes rapports familiaux, ça a eu des conséquences dans mes rapports amicaux, parce que ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de voir le film ont surtout prêté oreille à ce que le narratif expliquait. Et donc, comme ce narratif était le fait que ce film était un ramassis de mensonges et que c'était manifestement des influences, puisque c'est un peu le grand classique du genre aujourd'hui pour dénoncer toute personne qui est contre le diktat de ce narratif qui est à peu près identique dans chacun des pays occidentaux d'ailleurs. Oui, on a été véritablement cloués au pilori, Pierre et moi.
D'accord. Bon, juste une petite question comme ça. Hold Up, ça a été rentable? Vous avez réussi à rentrer dans vos fonds, au moins, vous payez un peu ou, je sais que vous avez été volé à un moment donné, il y a eu des fuites sur Internet, il y a eu des choses.
Ouais, alors, à ceci près que, les comptes que m'avait remis Pierre Barnérias, qui lui était aussi non seulement donc le réalisateur, mais étant donné que c'est sa structure, T-Prod, qui était le producteur délégué de ce film, par rapport au budget, je n'ai jamais validé le budget qu'il m'a remis parce que je n'étais pas d'accord avec les détails de chacun des postes de dépenses. Donc, ceci étant, j'espère que sa boîte de prod est rentrée dans ses frais. Mmh. Moi, en tout cas, ce que j'en sais, c'est que lorsque nous avons été diffusés sur Vimeo, à peine 12 heures après la diffusion, la diffusion du documentaire a été suspendue sur ordre de la direction de Vimeo. Et nous avions à peu près 373 000 dollars de chiffre d'affaires généré en 12 heures, ce qui avait été complètement phénoménal, et pour Vimeo, et puis ensuite même pour un documentaire en tant que tel. Nous n'avons rien touché de ces 373 000 dollars. Je crois savoir que Pierre, via l'intermédiaire de sa structure, a fait les démarches pour poursuivre Vimeo, mais je ne sais absolument pas où nous en sommes, étant donné que je suis en froid avec Pierre. Et chose aussi que nous avons entreprise, c'est poursuivre l'AFP et son directeur qui a été mis en examen parce que ce qu'avait balancé l'AFP concernant hold-up et concernant tout le contenu de hold-up était contraire aux sources que nous avions, et on a donc pu mettre en examen le patron de l'AFP pour fausses informations. Voilà, et puis ben, on attend le verdict, en tout cas moi je l'attends, mais en tout cas je ne pense pas que ce soit Pierre Barnérias qui m'informera plus avant de ce qu'il se passe, parce que depuis qu'on a fait hold-up, je me suis séparé de lui.
D'accord, c'est dommage parce qu'il y a peut-être certains thèmes qui devraient... c'est comme quand on a des enfants en fait, hein, parfois on devrait essayer de s'entendre sur l'essentiel, mais bon, ça c'est passant. C'est une petite remarque en passant, Pierre, si tu nous écoutes, bon, voilà, mais j'aime bien quand les gens font la paix, ce genre de choses. Alors, Wake Up...
Ah ben ça, je ne te le fais pas dire. Alors,
Wake Up, tu as enchaîné, donc effectivement, aujourd'hui sur un nouveau projet, l'éveil des consciences. Le projet est ambitieux, hein, 6 épisodes de 110 000 sur le vivant, la conscience, notre perception de la réalité. Moi, j'ai regardé l'épisode 1 hier soir, invités prestigieux, Philippe Guimand, Ariane Bilorand, Louis Fouché. J'ai vu que tu avais récolté plus de 51 000 euros via la souscription, mais que le budget de chaque film était à 60 000. Tu arrives à rentrer dans tes frais en faisant en indépendant quelque chose comme Wake Up ?
Non.
D'accord, comme ça non. C'est clair et net. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de polémiques ? J'ai vu passer des images où tu avais eu du mal à accéder à des salles de cinéma. Pourquoi ?
La polémique a été amorcée dès lors que la diffusion du film qui était prévue dans un cinéma de Nice, à savoir le cinéma Belmondo, elle a été suspendue après que et l'exploitant et la collectivité locale qui gère la salle aient validé le film et validé sa diffusion, simplement parce que il y a un soi-disant fact-checker qui appartient au mouvement Antifa et qui a un profil particulier, qui a saisi la collectivité locale pour faire savoir que ce film était un film incitant à la dérive sectaire, pour la pure, simple et bonne raison que j'invite tout un chacun à se tourner vers une existence fort probable de la conscience. Voilà, et c'est ce qui a amené ces érudits à estimer que ce film était dangereux parce que ouvrait une porte.
De ce que tu nous dis, moi je constate que nous avons encore des problèmes de diffusion de l'information et de contrôle des fonds lorsque ce sont les nôtres. Tu vois, on a des problèmes avec PayPal, avec Google, tu me dis avec Vimeo, parfois Tipeee s'en va aussi avec les cagnottes, notre argent, on ne sait pas où c'est qui va. J'encourage les gens à aller regarder. Alors, Wake Up, c'est beau. Déjà, j'ai regardé, c'est magnifique, c'est joli, c'est bien filmé. Donc, il y a une différence entre regarder un truc sur YouTube en basse définition et puis quelque chose qui a vraiment été travaillé. Puis, si vous aimez Philippe Guimand, parce que franchement, tu es en train d'en parler tout de suite, là, si vous aimez rentrer dans ce genre d'univers, eh bien là, c'est très bien présenté. Christophe, merci d'être venu et puis on te souhaite le meilleur. Et puis, à bientôt. Au revoir.
À bientôt, merci.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP.
Radio Libre en Périgord.